ラフトレ
Bonjour et bienvenue dans l'émission 62 de Jaf Tamer sur RLP, l'émission de l'association Équité Parentale consacrée à l'étude de la famille contemporaine d'aujourd'hui via le regard des pères. Aujourd'hui, une émission diverse basée sur l'actualité avec plusieurs intervenants. Tout d'abord, M. Thierry Lavergne, pédopsychiatre et psychanalyste en service public et en libéral, qui nous parlera de nos enfants et de leurs amis. Nous aurons également Franck de l'association Mom C'est Tout qui vient distraire et occuper les enfants hospitalisés. Et puis nous conclurons avec Maître Nathanaël Machter, avocat et ancien magistrat, qui oscille entre Paris et Saint-Astier, qui nous parlera du projet de loi PMA-GPA qui est actuellement encore en ping-pong entre l'Assemblée nationale et le Sénat et qui nous exposera ses avis sur les conséquences pour la filiation et les évolutions du droit. Avec au passage une légère évocation sur l'euthanasie. Tout ceci après les actualités, bien évidemment, ne bougez pas, c'est après ça.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Actualité, tout d'abord, le Conseil d'État vient d'annuler la règle de la part unique pour les allocations familiales lors des résidences alternées. On en avait déjà parlé ici, c'est un problème. Lorsque vous avez votre enfant en résidence alternée, malheureusement, l'allocataire unique fait qu'un seul des deux parents reçoit les allocations, ce qui pose quand même beaucoup de soucis. Alors, c'est une grande nouvelle dont nous reparlerons prochainement. Encore faut-il qu'elle soit appliquée.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Rencontre avec les élus maintenant de l'association Égalité Parentale de Thierry Berger, dont nous sommes partenaires, notamment pour la communication. Alors, le 3 mai, nous avons rencontré Bruno Quettel, député LAREM de l'Eure, avocat aux affaires familiales pendant 15 ans. Il est très au fait et convaincu par la justesse de notre demande. Il va voir que les députés LAREM les plus motivés, Julien Borowczyk, Valérie Opelt et Florence Provendier, s'ils pourraient reprendre et porter ensemble notre PPL 3852 pendant cette mandature, ne serait-ce que pour honorer les promesses égalitaires d'Emmanuel Macron. Et même s'il sera difficile de la discuter dans leur niche, va lui aussi sensibiliser une nouvelle fois Adrien Taquet, qui rencontre le 5 mai. Voilà. Madame Opelt, qui est un nom qui ne vous est pas inconnu, qui a déjà tenté plusieurs fois de porter nos projets de loi. Le 5 mai toujours, Coralie Dubost, députée LAREM de l'Hérault, membre de la commission des lois et nouvellement chef de la coalition Famille pour LAREM. Elle est très au fait de la carence de résidences alternées, elle va lire notre PPL 3852, elle est rassurée par le fait que notre PPL n'impose pas la RA systématique, elle va regarder si le juge n'est pas trop contraint, puis elle étudiera avec ses collègues comment elle pourrait la pousser. Bon, de par ses nouvelles responsabilités sur la famille, elle souhaiterait nous auditionner. Pas de problème, madame. Le 10 mai, Myriam Kadouri, chargée de mission pour Charlotte Gropo, conseillère aux droits des femmes pour Elisabeth Moreno, ministre à l'égalité homme-femme. Elle ne s'est pas prononcée. Avec nos documents, elle va faire remonter l'échange en interne. Le 12 mai, Jocelyne Guidez, sénatrice UC de l'Essonne, secrétaire de la Commission des Affaires Sociales. Elle est convaincue par le besoin de légiférer pour plus de résidences alternées et va compléter ses informations auprès du Conseil aux Affaires Sociales, déjà rencontré comme attaché parlementaire de M. H. Marseille. Pour elle, une PPL sera difficile dans l'année restante, mais un ou plusieurs amendements en fin d'année sont beaucoup plus faisables. Le 18 mai, l'attachée parlementaire de Véronique Guillotin, sénatrice RDSE de Meurthe-et-Moselle, vice-présidente de la Commission des Affaires Sociales. Le groupe RDSE avait proposé l'amendement numéro 108 du 16 septembre 2013 au projet de loi égalité hommes-femmes pour mettre plus de résidences alternées. Nous sommes en attente du retour de la sénatrice sur sa motivation à s'emparer aussi du sujet.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
J'en ferai. Thierry Laverne sur RLP, pédopsychiatre et psychanalyste sur Aix-en-Provence. La petite question du jour. Les enfants grandissent, faut-il choisir leurs relations, leurs amis, leurs groupes? Faut-il les orienter ou faut-il les laisser faire et choisir absolument qui ils veulent dans leur primo-entourage, dira-t-on?
Tout dépend de l'âge, mais d'une façon générale, le choix de l'enfant est primordial. Voilà. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui va choisir ses fréquentations parmi le monde qu'on va lui proposer. Et plus ce monde sera large, plus il aura le choix. C'est-à-dire que les enfants qui ont des activités parascolaires pourront se faire des amis dans les activités parascolaires. Les enfants qu'on envoie en colonie ou dans des lieux d'accueil pendant les vacances pourront s'y faire des amis, ou qu'on envoie à l'étranger pour apprendre une langue pourront s'y faire des amis, etc. Les enfants se font des amis aussi parmi les membres de la famille et parmi les élèves de l'école. Le critère n'est pas le choix. Le parent ne peut pas choisir à la place des enfants et c'est même fortement déconseillé. Par contre, ce qui est vraiment très important, c'est que le parent connaisse les amis de ses enfants. C'est une exigence finalement assez banale, assez simple, mais qui quelquefois on a tendance à oublier, et puis surtout que les enfants n'ont pas spontanément envie de répondre, mais il est tout à fait normal que les parents connaissent les enfants ou les adolescents que leurs enfants fréquentent. Et donc, il y a des stratégies très simples, hein, c'est de faire l'effort de rencontrer les parents, selon l'âge hein, de ces enfants, toujours pareil, de rencontrer les parents des amis des enfants pour faciliter les échanges et du coup connaître un peu mieux les enfants. Mais ça peut être aussi, quand l'enfant est adolescent, proposer qu'il y ait des rencontres, des petits groupes, hein, sinon les parents vont pas tenir le coup, mais des petits groupes de 2-3 adolescents à la maison pour mieux les connaître et voir à qui les enfants, quels sont le type d'enfants que leurs enfants fréquentent. Voilà, mon conseil, il est vraiment très simple. Mon conseil, c'est de ne pas influer sur le choix et même dire, oh, tu sais, celui-là, tu pourrais éviter de fréquenter, etc. C'est pas forcément bon, c'est même plutôt négatif parce que ça peut être entendu de différentes manières par l'enfant. Mais par contre, c'est très important de connaître l'enfant, voilà, de connaître les amis des enfants.
Sachant que bien souvent, les enfants de nos enfants sont les enfants de nos amis. Et donc, les relations de nos enfants sont aussi tributaires de nos relations à nous. Parfois, d'ailleurs, on ne s'entend plus avec certains amis, et puis les enfants restent ses amis quand même. Enfin, le relationnel des enfants en bas âge est aussi soumis au relationnel des parents.
Absolument. Et d'ailleurs, justement, c'est un effort à faire pour les parents que de montrer qu'ils ont un relationnel quelquefois, parce que sinon l'enfant risque d'être un peu trop isolé. C'est pour ça que j'insistais là-dessus, c'est-à-dire que par exemple, quelquefois paroter à la sortie de l'école et papoter avec une ou l'autre, eh ben, c'est pas complètement inutile parce que ça montre à l'enfant que le lien social c'est quelque chose d'intéressant. Et ça facilite encore une fois la possibilité de connaître les enfants que notre enfant fréquente. Mais j'ajoute que quand même, l'enfant a par lui-même aussi la capacité à choisir des amis parmi des groupes que les parents ne fréquentent pas forcément. Et du coup, ce sera aux parents de faire en sorte de rencontrer ses enfants, de rencontrer les parents de ces enfants-là, etc. Voilà.
D'accord. Merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt. Au revoir, Stéphane.
RLP. Radio Libre en Périgord.
RLP 102.3 aujourd'hui avec l'association Mom C'est Tout à l'hôpital de Périgueux et Franck qui intervient auprès des enfants du service pédiatrique. Bonjour Franck, vous allez bien ?
Bonjour, ça va très bien, merci.
Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire un peu ce que vous faites dans l'association et auprès des petits ?
Tout à fait. Alors moi je suis artiste, c'est ma première vocation. Ensuite je suis professeur d'art plastique à la ville de Périgueux.
D'accord.
Et à l'école municipale de la ville de Périgueux d'art plastique. Et ensuite j'interviens, je fais beaucoup de diffusion artistique auprès de différents publics. Et à cette occasion-là, j'ai pu rencontrer donc les personnes et les soignants de l'association Mom C'est Tout, qui est une association qui œuvre pour proposer des activités aux enfants à l'intérieur du service de pédiatrie, sous différentes formes. Donc c'est vraiment polyforme. Ça peut être de la musique, de la céramique, ça peut être donc des arts plastiques. Je pense qu'il y a du yoga aussi. Enfin, il y a différentes activités comme ça. Et je travaille avec eux depuis 5 ans. Ça fait 5 ans que je suis dans cette aventure. Donc voilà.
D'accord. Et en fait, vous venez les chercher le vendredi après-midi. Il y a un jour particulier?
Exactement. Pour moi, c'est les arts plastiques, ce sont le vendredi après-midi de 13h à 15h.
D'accord. Et vous êtes le seul intervenant ou il y en a plusieurs?
Non, nous sommes différents, plusieurs intervenants dans ma discipline. Cette année, comme c'est les années, comme l'année dernière, sont des années un peu particulières avec la Covid.
C'est vrai.
Cette activité a repris il y a à peu près, ça fait un mois. Et donc, comme je suis un des plus anciens intervenants, je me suis proposé, puis ça a été accepté collégialement pour que je prenne la main ici pour reprendre la saison.
Donc en fait, vous passez chercher les enfants dans leur chambre, vous les amenez auprès d'une table et vous faites des créations pour les occuper un peu durant une heure.
Mmh, exactement, durant 2 heures.
Durant 2 heures,
ouais.
D'accord. Comment est-ce qu'ils réagissent? Ils sont contents?
Bien sûr.
Ah, oui.
Ils sont ravis. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un lieu qui permet à tous ces petits patients de se rencontrer, alors que souvent, on est isolé dans sa chambre.
Ouais.
C'est pas évident. Et donc, c'est vraiment un lieu de rencontre avant tout, je pense, entre déjà eux et moi et eux entre eux. Et ça permet de voir aussi l'espace du service d'une façon, sous un angle un peu différent. C'est-à-dire que c'est un lieu qui peut aussi autoriser à être soi-même, ne plus être un patient, mais d'être, par exemple, Laura sera Laura.
David sera David, Jenny sera Jenny.
Exactement. Bien sûr, j'en rencontre beaucoup. Et donc ça, c'est vraiment essentiel. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de travailler sur un thème. Là, le thème, c'est le mur. Qu'est-ce qu'un mur? Pourquoi? On en discute un petit peu. Et le mur, c'est pour représenter l'idée d'une frontière entre deux espaces, pour représenter l'emprisonnement, mais aussi, il y a à travers toutes ces notions, la possibilité d'en réchapper par la poésie, par la créativité, par la rêverie, ouais, par l'envie de faire les choses. Et ça correspond bien à ces notions artistiques que nous partageons ensemble.
D'accord. Les enfants sont beaucoup dans l'attente quand ils sont hospitalisés. Mmh. Parfois, ils dépriment un peu. Vous avez l'impression que ça les aide à s'ouvrir, que ça leur arrange le moral. Vous en avez parlé entre vous. Il y a vraiment des résultats?
Oui, tout à fait. Et, en tout cas, moi, je n'ai aucune compétence comme soignant ni comme psychologue. Mais par contre, j'ai des retours des soignants et des psychologues qui ont vu la différence depuis que justement toutes ces activités sont arrêtées à cause de cette période de crise. Et lorsque ils passent auprès de moi et auprès des enfants, ils disent « Ah, même c'est tout est revenu, merci !» Et effectivement, dans l'évolution des enfants, apparemment, ces activités ont un rôle qui n'est pas minime. Ça,
oui.
C'est certain.
Moi, je pense, tout à fait. Bon. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci pour votre temps, ce que vous faites pour nos enfants, parce que vous travaillez pour les enfants de la ville. Mmh. Et effectivement, c'est bon pour leur morale et leur bien-être. On vous en remercie. Merci, Franck.
Merci à vous.
RLP, Radio Libre en Périgord.
RLP 102.3, aujourd'hui avec Maître Nathanaël Master, avocat, ancien magistrat, qui est avec nous sur RLP. Bonjour Maître, vous êtes avec nous?
Et bonjour Stéphane.
Bonjour, bonjour, bonjour. Vous vouliez vous exprimer aujourd'hui sur le projet de loi qui est débattu à l'Assemblée nationale sur la GPA-PMA.
Eh bien oui, vous avez souhaité m'interroger là-dessus, et comme vous le savez, il y a un débat, mais qui dure depuis bientôt 3 ans, à l'Assemblée nationale, sur l'ouverture de la PMA aux couples de femmes homosexuelles et aux femmes non mariées. Et la grande nouveauté sur ce terrain-là, hein, sur le terrain de la PMA de ce projet de loi, est qu'il établit une nouvelle forme de filiation. C'est une forme de filiation par reconnaissance préalable. Ce couple de femmes sera invité à passer devant notaire pour exprimer devant notaire quels sont les parents, sans que l'on sache d'ailleurs qui est le père ou qui est la mère, puis il n'y en a plus d'ailleurs ni père ni mère, donc ils seront les parents de l'enfant à venir qu'ils ont concocté dans le cadre de leur projet. Alors où se situe la nouveauté absolument sensationnelle de cette affaire? Jusqu'à présent, la filiation découlait toujours de la rencontre sexuelle d'un homme et d'une femme. Et je crois que la rupture principale de cette affaire est là. Vous deviez votre naissance au mystère d'une rencontre et à ce qui avait pu se passer comme rencontre charnelle entre un homme et une femme, et le mystère portait sur l'éventuelle jouissance qui avait pu être partagée entre eux, et qui certainement participait à ce qui était votre goût pour la vie, votre goût pour les combats à mener, votre énergie, vos désirs, et le caractère toujours singulier de l'origine qui était la vôtre, alors que dorénavant, une classe d'enfants va naître qui ne devra plus sa naissance à une rencontre sexuelle. Mais à quoi donc devront-ils cette naissance ?
Vous voulez dire que maintenant, il y a par exemple une séparation entre la naissance, la filiation et le patrimoine génétique. C'est-à-dire qu'auparavant, nous étions des lignées, en fait. Moi, je connais mes grands-parents.
Auparavant, vous avez parfaitement raison, le processus relevait d'une lignée et d'une volonté de promouvoir cette lignée, c'est-à-dire d'assurer une perpétuation à cette lignée.
Et le patrimoine familial étant quelque part lié, effectivement, à la construction de cette famille et puis nos ascendants.
De nos jours, il semblerait que cette lignée soit parfaitement abandonnée au profit de ce qui est l'utilisation d'une sorte de service public de la naissance. Autrement dit, vous pouvez vous adresser à l'État qui va se servir dans une banque d'ingrédients qu'ils appellent la banque du sperme. Ils vont mesurer la qualité de ces ingrédients absolument comme on ferait une cuisine, comme on ferait une préparation culinaire. Il y a une marmite, l'une des femmes va être choisie comme marmite, et puis il y a des ingrédients qui vont être pris, qui vont être testés, qui vont être éventuellement améliorés, parce que n'oublions pas que ce même projet de loi permet la création d'embryons chimériques, mais surtout la création d'embryons transgéniques, c'est-à-dire la possibilité d'améliorer par voie de manipulation génétique, notamment grâce à cette technique du CRISPR-9, la qualité des embryons. Donc ces ingrédients vont pouvoir être testés et améliorés, et puis donneront naissance à des enfants qui sont les représentants d'une humanité complètement nouvelle, complètement différentes, et vont se superposer dans nos écoles et dans nos classes, pardonnez-moi, deux types d'enfants, ceux qui auront le bonheur d'avoir une origine liée au sexe, et ceux qui auront le bonheur ou le malheur, c'est selon, d'avoir une origine liée à une manipulation culinaire, éventuellement génétique, autrement dit, ce sont des enfants qu'on peut légitimement qualifier d'OGM sans vouloir être péjoratif ou méchant à leur endroit. Alors, comment vivront-ils ? Qu'est-ce que l'avenir leur réserve ? Qu'est-ce que l'avenir nous réserve à cet égard ? C'est une question absolument fascinante.
Mais au niveau du droit, il me semblait que, par exemple, sous foi de test génétique, nous pouvions réclamer une filiation. Le fait d'accéder à un patrimoine génétique, de le mettre ensemble pour procréer un enfant avec une reconnaissance... une filiation effectuée chez le notaire, est-ce qu'il n'y a pas une rupture, en fait, au niveau du droit et au niveau de cette notion de filiation ?
Mais il y a une parfaite rupture, puisque, effectivement, il s'agit là de la conception d'une filiation comme une pure fiction, parce que il n'y a aucune reconnaissance dans l'affaire. Il y a simplement juste se faire reconnaître soi-même.
Parce que nous pensons tous à l'affaire Yves Montand, par exemple. Vous voyez, avec les enfants qui étaient venus, on avait exhumé le corps, on avait dit ben, « c'est bien à mon parent », et donc il y avait des problèmes d'héritage, des problématiques d'héritage. Toute cette partie du droit français disparaît dorénavant.
Alors non, parce qu'il y aura tout de même avec ces enfants des transmissions de patrimoine, des questions relatives à la transmission du nom, des questions relatives, etc.
Ils ne seront plus basés sur la génétique.
Ils ne seront plus basés sur la reproduction sexuelle qui est impliquée génétiquement, mais des questions de type génétique vont se poser et vont même passer au premier plan, si vous voulez. C'est-à-dire que ce qui va passer au premier plan, c'est la génétique du donneur, la génétique de la mère qui reçoit. Autrement dit, là encore, des discussions qui tiennent à la qualité des ingrédients mis en œuvre pour la fabrication de l'enfant. Mais quant aux modifications du droit que tout cela induit, elles sont considérables, et notamment dans le rôle du législateur, qui se retrouve là à devoir entériner des modifications technoscientifiques qui répondent à des consensus sociaux et à des aspirations sociales, et qui font du droit une affaire parfaitement privée, c'est-à-dire que la norme n'est plus censée représenter un intérêt en quelque sorte collectif ou une tradition ou un rapport à quelque chose qui serait ancestral ou à une censure ou à un interdit. Bien au contraire, la norme représente ce qui donne accès à un droit individuel. Autrement dit, de plus en plus, le droit est conçu comme une aspiration individuelle qu'il s'agit de satisfaire. Et du reste, dans la même année, on a vu donc cette PMA, qui est la satisfaction donnée aux droits individuels des couples homosexuels à pouvoir enfanter au même titre que les autres. On a eu une offensive sur le terrain de l'euthanasie qui a été très violente à l'Assemblée nationale pour voir reconnaître un droit à mourir, autrement dit que la mort n'appartienne plus à la collectivité ou à l'ancestral, etc. Mais que là encore, mon corps, la fin que je veux mettre à sa vie m'appartienne comme un droit privé. Hein, donc là encore, suppression du caractère collectif ancestral.
Oui, ça a toujours été le cas. Je veux dire, le jour où je commence à avoir une tête d'éléphant, je me sens pas bien, je trouve un sixième étage, je n'aurai pas besoin que l'État décide pour moi, si vous voulez. C'est un autre débat, hein, mais la problématique de l'euthanasie, c'est que l'institution avec... Bon, s'ils sont pas très doués pour tout gérer, j'ai pas forcément envie de leur donner la gestion de ma propre vie. Le problème, c'est que l'institution va venir gérer la fin de vie. On l'a vu en dernier avec le Rivotril, ça pose des problématiques.
Vous savez que dans l'euthanasie, la question de l'euthanasie est très différente de la question de la fin de vie.
Oui, je comprends bien.
Mais la question de l'euthanasie concerne de la possibilité de choisir la fin de n'importe quelle vie à n'importe quel moment.
Oui, non, mais ça, nous l'avons tous, la vie, hein, cher maître.
Mais notamment la vie d'un adolescent, par exemple.
Oui, non, mais vous voulez demain
trouver... Ou la vie d'un malade mental.
Oui, non, mais je veux dire, hein? c'est le problème auquel je voulais en venir. Vous voulez mettre fin à votre vie, vous êtes majeur et vacciné, vous avez trouvé un moyen, si vous voulez. Nous, ce qu'on veut pas, c'est que l'institution vienne le faire à votre place, hein, comme elle l'a fait l'an dernier avec le Rivotril.
Mais
c'est ça la problématique.
Mais l'institution, ou bien, votre famille, par exemple.
Oui, tout à fait, c'est ça.
C'est-à-dire tous ceux qui attendront. Ouais.
Allez-y, madame,
héritage.
Dans les pattes, signez-la, vos enfants auront 5 000 euros, ils seront heureux, vous allez respirer ça, ça va vous faire rire, vous allez
5 000
voir.
5 000 euros, et puis éventuellement leur héritage.
C'est ça,
et puis
exactement.
Non,
mais
la
c'est, maison. C'est une horreur, n'en voulons pas.
Et puis l'État ne paiera plus vos dépenses de santé parce
exactement.
Que vous êtes
en charge,
etc. Donc là encore, vous savez, il y a quelque chose, moi, qui me frappe dans ce projet de loi sur la PMA, c'est que il y a évidemment ce qui nous vient des États-Unis, la conservation des gamètes, c'est-à-dire la possibilité pour les femmes de conserver un ovule en attendant le moment propice de leur vie professionnelle où elles pourront, c'est-à-dire tardif, vers 40, 45 ans, où elles pourront enfanter parce que ça ne gênera plus leur carrière et qu'elles le feront avec un matériel génétique qu'elles auront réservé à l'âge de 20 ans.
Non mais allons-y, lâchons-nous, l'aquarium dans le salon avec le bébé qui naît est pour demain.
Le quoi?
La technologie est prête. L'aquarium qui est dans le salon avec le fœtus qui grandit à l'intérieur est pour demain. La technologie est prête.
Donc, si vous voulez, nous y sommes dans ce qui avait été prévu par les auteurs de science-fiction des années 70. Nous sommes dans des lois de programmation qu'on peut appeler l'eugénisme technoscientifique. C'est l'État qui a la main là-dessus. Et on va voir effectivement apparaître des problématiques nouvelles pour des enfants qui auront été créés sous ce registre. Et moi, je serais très, très intéressé de voir comment, politiquement, dans les prochaines années, les enfants nés de ces processus se regrouperont entre eux, éventuellement auront des causes communes, des dommages dont ils se plaindront ensemble contre la société. Et ça va être un phénomène extrêmement intéressant à observer, outre le fait de savoir s'ils seront viables. Parce que comme pour toutes les chimères, on ne sait jamais à l'avance exactement ce qui va se passer. Et il n'est pas du tout dit que ce mode de filiation n'entraîne pas un taux de déperdition, de suicide, de malheur, qui finalement soit tellement insupportable
qu'on soit amené à revenir là-dessus. Là-dessus, je dois dire, il va falloir être attentif à l'évolution des enfants qui vont naître de ces techniques et ça va être absolument passionnant.
Ok, c'était Maître Nathanaël Machter sur RLP. Je vous remercie pour cette vision du droit avec un petit peu d'idéologie. Je vous dis à très bientôt.
Merci.
Merci, au revoir.
Voici maintenant la chanson de la semaine.
Logo pela manhã, logo pelo acordar, saudades do meu tano, saudades me vai matar. Logo pela manhã, logo pelo acordar, saudades da minha nora, volto-me doido a chorar. E vem a noite, espero pelo vosso olhar, sinto a vossa presença, me fazem acreditar. Ai, eu gosto de ti, e eu gosto de ti, Deus sabe que é verdade. Eu gosto de ti, ai, eu gosto de ti, Deus sabe que é verdade. Eu gosto de ti, ai, eu gosto de ti, Deus sabe que é verdade. Mas agradeço a quem vai gostar.
Já está!